les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1983, André Miquel, professeur de langue et de littérature arabe au Collège de France, retraduisait un texte original dans l'histoire de la littérature arabe classique. Intitulé « Des enseignements de la vie », il fut rédigé au XIIe siècle par le prince syrien Oussama ibn Munqid. Né en 1095, l'année où le pape Urbain II prêcha la première croisade, mort à 93 ans, quelques mois après que Jérusalem fut repris aux Francs par les troupes de Saladin, cet homme avait à la fin de sa vie dicté ce témoignage précieux. Jean Montalbetti en faisait en 1983 le fil rouge d'une série de trois inconnus de l'histoire dans lesquels il nous faisait découvrir le parcours de ce prince en compagnie d'André Miquel. Après un premier volet consacré à ses années de formation, c'est sa carrière de guerrier engagé dans la lutte contre les Francs qui nous était racontée dans le deuxième épisode, diffusé pour la première fois sur France Culture le 30 décembre 1983.
Unknown people in history.
Disconosciuti nella storia.
La storia dos desconhecidos.
Unbekannte der Geschichte.
L'uomo non si rarezza.
The unknowns of history.
Les inconnus de l'histoire.
Je suis un oublié du destin. On croirait un chameau fatigué errant dans le désert.
تناستني الآجل حتى كأنني ضريئة صفر بالفلة حاصر.
Que me font les honneurs et la gloire et l'aisance si je ne brise plus les épées et les lances?
Il est né en Syrie le 4 juillet 1095, au moment où était prêchée la première croisade par le pape Urbain II. Il mourra un an après la reprise de Jérusalem, en 1187 par Saladin. Ce lettré est aussi un chasseur, un guerrier et un habile politicien. À 90 ans, devenu presque aveugle, il dicte le récit de sa vie comme un enseignement sur le destin. C'est bien sûr un document historique exceptionnel sur les rapports Orient-Occident et sur les croisades vues du côté arabe. C'est aussi un texte original dans la littérature arabe classique. Nous poursuivons aujourd'hui cette enquête sur un prince syrien du XIIe siècle dans la guerre du Proche-Orient. Oussama ibn Munqid par Jean Montalbetti avec pour médiateur André Miquel, professeur au Collège de France, et pour consultant Mohamed Rekaya de Paris 3 et Françoise Michaud de Paris 1. Dans le rôle d'Ouzama, Boudjema Bouada, avec la voix de François Darbon, dans une réalisation de Christine Bernard-Sugy.
Nijmuddin al-Ghazi ibn al-Turk, Dieu le prenne en pitié, avait défait les Francs près d'Al-Bal'at le vendredi 5 du mois Jumayd al-Ahad 513. Il les avait anéantis, tuant le maître d'Antioche, Roger, avec tous ses cavaliers. Mon oncle, Ezdin Abul Asakir Sultan, Dieu le prenne en pitié, va le trouver, tandis que mon père, Dieu le prenne en pitié, restait en arrière, à la forteresse de Sheizar, avec consigne de m'envoyer vers Apamé, ainsi que tous ceux qui étaient en ma compagnie à Sheizar, et d'appeler les habitants et les Arabes à piller les récoltes d'Apamé. Quelques jours à peine après le départ de mon oncle, le héros fit son appel et je partis avec une petite troupe, même pas 20 cavaliers, dans la conviction où nous étions qu'il n'y avait aucune cavalerie dans Apamé. J'avais avec moi en revanche une foule de pillards et de bédouins. En arrivant à la vallée de Bohémond, tandis que pillards et bédouins s'égayaient dans les champs, une forte troupe de Francs se présenta. La nuit même, il était arrivé à Apamé 60 cavaliers et autant de fantassins.
André Miquel, Uzama, prince héritier de la dynastie des Munkhrit, qui règne à Shahisar, a reçu une double formation, une formation intellectuelle. C'est celle d'un lettré qui a étudié la grammaire, la rhétorique, la poésie. C'est celle aussi d'un chasseur et d'un guerrier rompu aux violents exercices physiques. Dans son autobiographie intitulée « Des enseignements de la vie », on le voit chevaucher aux côtés de son père, Mourdid, ou bien de son oncle, Sultan, mais il ne semble participer à son premier vrai combat qu'en 1119. Il a alors 24 ans, est-ce tardivement pour un prince arabe de cette époque, d'autant que physiquement il semble très puissant.
Physiquement oui, il est d'ailleurs très fier de sa haute taille, puisqu'un jour un croisé le complimentera de sa haute taille et lui dira même « Tu pourrais être un chevalier parmi les nôtres parce que tu es grand et bien bâti ». Cela posé, il y a tellement de monde à Shahisar que il n'a pas eu sans doute, avant cet âge de 24 ans, l'occasion, tout simplement, de commander une troupe au combat. L'épisode auquel vous faites allusion vient immédiatement après la mort de Roger de Salerne, qui est régent de la principauté d'Antioche, et Oussam est chargé d'aller faire une opération de razzia, d'aller brûler des récoltes autour d'une petite ville voisine d'Apamé, qui est tenue par les Francs. Et il raconte son combat, et notamment comment il a failli être tué parce qu'il avait mal calculé son coup contre un chevalier vêtu de noir, monté sur un cheval sombre, etc. Et en tout cas, il est vainqueur avec une poignée d'hommes, une vingtaine ou une trentaine. Et l'épisode se termine un peu à la corneille, dirais-je. C'est un peu le retour des Horaces, car un serviteur, sans demander l'autorisation d'Oussama, est allé prévenir son père, à Shahisar, de la bataille qui se déroule. Et le père dit « Est-ce que mon fils est tué ?» Et le serviteur répond « Non, je l'ai vu sur son cheval, etc. Mais tout le monde est tué sauf lui. » Et Oussama ne le dit pas, mais le père a certainement une réaction de colère. Et ensuite, Oussama arrive et dit « Mais non, pas du tout, nous avons gagné. » À ce moment-là, tout est bien qui finit bien. L'honneur est sauf et le premier combat s'est terminé à l'avantage du jeune guerrier.
Les Francs nous débusquèrent de la vallée et sous leur pression nous arrivâmes jusqu'aux gens qui étaient en train de mettre à sac les récoltes. Il se fit parmi eux un grand tumulte. La mort m'a paru douce, si tout ce monde dont j'avais la charge était promis à périr. Je fis donc volte-face contre un cavalier franc de la première ligne. Il s'était débarrassé de sa cuirasse pour être plus léger lorsqu'il aurait à passer devant nous. Je le frappai de ma lance à la poitrine et il vola de sa selle, mort. Après quoi, j'affrontai les assauts successifs des cavaliers ennemis qui finirent par tourner bride. Je n'avais pourtant aucune expérience de la bataille, et c'était le jour de mon premier combat. Mais j'avais sous moi un cheval, vif comme l'oiseau. Je collais au talon de l'ennemi pour le piquer de ma lance tout en me dérobant l'instant d'après à ses coups. À l'arrière se trouvait un cavalier monté sur un pur sang noir aussi fort qu'un chameau. Il portait cuirasse et complet appareil de guerre. Je le craignais, redoutant qu'il ne m'entraînât pour se retourner ensuite contre moi. Mais à la fin, je le vis éperonner son cheval qui se mit à agiter la queue. Sachant alors qu'il était épuisé, je chargeai mon adversaire et le frappai. La lance ressortit par devant d'une coudée environ. J'en fus délogé de ma selle. Mon corps était trop léger, le coup trop violent, le cheval trop rapide. Puis revenant en arrière, je retirai la lance, pensant bien avoir tué mon homme, et regroupai mes compagnons, lesquels étaient sains et saufs.
Les Francs de Jérusalem menacent directement Shahisar. Il y a un moment où le roi de Jérusalem, Baudouin II, fait le siège de Shahisar et va s'en emparer.
Oui, en fait, le grand ennemi de Shahisar, c'est Antioche, en fait. C'est la principauté voisine qui est
Tancrède, puis Tancrède, son successeur
puis
Roger.
La famille des Bohémonts, il y a quelques grands féodaux qui sont de grands guerriers. Le roi de Jérusalem, en fait, ne vient là qu'à l'occasion d'autres campagnes en Syrie du Nord. Mais il met le siège devant Shahisar, mais en réalité, tout cela se termine comme d'habitude, c'est-à-dire en fait, des tractations, des échanges de politesse, des promesses de trêve. Et les choses iront si loin qu'en effet, à Shahisar, un jour, le roi de Jérusalem sera retenu prisonnier, mais traité avec de très grands égards, pour le compte d'autres principautés musulmanes. Il y a tout un jeu extraordinairement subtil. Enfin, on fait la guerre, mais il n'y a pas que la guerre. Il y a les tractations, il y a le commerce. Il y a tous ces gens qu'Oussam appelle en arabe les bourgeois. Nous dirions les Pékins, c'est-à-dire les civils, qui continuent de vivre. Et les princes sont aussi là pour assurer la tranquillité des bourgeois dans la mesure où la guerre le permet.
Est-ce qu'il s'agit essentiellement d'opérations de razzia? On voit par exemple beaucoup de scènes qui commencent par on repère un petit groupe de francs qui se trouve à tel endroit et puis on envoie un certain nombre de cavaliers à leur rencontre. Il y a un engagement pas très décisif ou bien ils prennent la fuite. Ou bien il s'agit vraiment d'opérations militaires d'envergure à cette époque?
Il y a beaucoup plus un effet d'engagement ponctuel et qui se termine, je ne dirais pas sans vainqueur ni vaincu, mais sans dommage irrémédiable pour l'une et l'autre des deux parties. Il y a beaucoup plus ce style d'engagement que le grand engagement meurtrier. Les grands engagements meurtriers, celui où tombe Roger de Salerne par exemple, sont ceux où des principautés musulmanes, pour un temps, réussissent à mettre sur pied une coalition contre l'un des royaumes francs. Il y en a très peu dans Oussam. Il y a comme cela deux ou trois grandes batailles avec mort de personnages célèbres. Mais dans l'ensemble, c'est véritablement, nous dirions, une guérilla s'il s'agissait de guerre populaire. Mais ce sont des escarmouches, de rencontres suscitées par l'occasion, beaucoup plus que des engagements frontaux, massifs et très sanglants.
Je n'ai jamais vu mon père, Dieu le prenne en pitié, me retenir de combattre ni d'affronter un danger, malgré cette tendresse privilégiée que je lisais en lui et lui en moi. Il me donna à la constater un certain jour. Nous avions chez nous, à Chezar, des chevaliers francs et arméniens offerts comme otages par le roi des francs, Baudouin, en garantie d'une obligation contractée vis-à-vis d'Ul Husim Din Timurtar ibn al-Razi, Dieu le prenne en pitié. La dette réglée, lorsque les otages voulurent s'en retourner dans leur pays, Khirhan, maître de l'Homs, envoya des cavaliers qui leur tendirent une embuscade dans les environs immédiats de Chezar. Quand les otages furent en chemin, les autres les attaquèrent et les firent prisonniers. Frappés par leurs cris, mon oncle et mon père, Dieu les prenne en pitié, montèrent à cheval, prirent position et envoyèrent tous ceux qui les rejoignaient courir après les otages. J'y vins aussi et mon père me dit « Suis-les avec ceux que tu as. Ruez-vous sur les autres et délivrez vos otages. » Je me lançai à la poursuite des ennemis. Les atteignis, après avoir galopé tout le jour ou presque, délivré ceux qu'ils avaient amenés et capturé quelques cavaliers de Homs, tout en m'émerveillant des mots de mon père, « Ruez-vous sur les autres. »
Alors les choses changent tout de même à partir de 1127 lorsque un Turc Zangi de Mossoul va tenter justement de constituer une armée, de faire une certaine union contre les Francs. Et Oussama va se mettre à son service.
Zangi arrive au bon moment pour Oussama. Car il s'est passé entre-temps, au niveau de la petite histoire de Cheysar, un phénomène grave pour Oussama. C'est que son oncle, qui a pris cette principauté dont le père d'Oussam ne voulait pas, l'oncle sultan, peu à peu lui bat froid à notre Oussam. Pourquoi? Parce que au moment où il est devenu seigneur de Cheysar, sultan n'avait pas d'enfant, et il était entendu qu'Oussam lui succéderait, mais entre-temps il s'est marié, il a des fils. Et il a peur un peu du passé d'Oussam, de sa prestance, de ses qualités même, et il commence à lui battre froid. Et Oussam décide par conséquent de s'exiler. Pas très loin, il va rejoindre Zangi, qui est le maître de Mossoul et d'Alep. Il va tenter sa chance dans les armées de Zangi, lequel Zangi commence son grand projet d'unification de la Syrie contre les croisés. Ce ne sera pas d'ailleurs le départ définitif, car Oussam essaiera de revenir à Cheysar, ou du moins à l'occasion d'une visite à Cheysar, essaiera de voir s'il ne peut pas continuer ce que j'oserais appeler sa carrière sur place.
Il a perdu d'ailleurs dans ces années-là son principal protecteur, c'est-à-dire son père qui va mourir en 1137.
Il a perdu en effet son père et sa grand-mère lui représente qu'il n'a vraiment plus aucune chance à Chaisard, que désormais son destin est ailleurs et il partira définitivement.
Mohamed Rikaya, Françoise Michaud, spécialiste de l'histoire du Moyen-Âge et de l'histoire de l'islam classique. Oussama, à partir de l'âge de 35 ans, va commencer à participer aux guerres contre les Francs, notamment en se mettant à partir de 1130 au service de Zangui, puis en étant ensuite au service de son fils Nur ad-Din. Quels sont, dans la période de la maturité de l'âge d'Ousama, les principaux affrontements entre l'islam et la chrétienté en Palestine, et de quelle façon est-ce que Ousama en rend compte par rapport à la réalité historique? Françoise Michaud.
L'événement important, je crois, pour l'histoire des croisés, après leur installation et la formation des États latins, c'est l'amorce d'une résistance arabo-musulmane ou turco-musulmane qu'ils n'avaient point connue jusque-là. Et je pense qu'on peut faire débuter cette résistance turco-musulmane à partir du règne de Zengi. Zengi devient souverain de Mossoul et d'Alep en 1128, c'est-à-dire de ces grands centres situés au nord de la Syrie et au nord de la Mésopotamie. Et détenir le pouvoir à la fois sur Alep et Mossoul, c'est-à-dire à la fois sur la Syrie du Nord et sur la Mésopotamie du Nord, c'était détenir une puissance économique et celle de la possession de la grande route caravanière de la Méditerranée à la Mésopotamie. Zengi utilise la propagande de jihad, de guerre sainte, en gardant les guillemets, et un effort dans la voie d'Allah, pour unifier la Syrie musulmane et par là pouvoir lutter efficacement contre les Francs. Mais les petits centres ont bien compris cela, et les grands centres aussi. Et Damas a vu d'un très mauvais œil la politique de Zengi. Ainsi, on arrive à un épisode tout à fait significatif auquel Oussama fut directement mêlé, qui est l'alliance entre Damas et les Francs contre Zengi en 1138. Au moment où Zengi, dans sa politique de jihad, d'unification de la Syrie et de lutte contre les Francs, veut prendre Damas et tente d'en faire le siège, le souverain de Damas n'hésite point à s'allier avec l'autre force de la Syrie-Palestine, c'est-à-dire le royaume de Jérusalem. Et c'est notre Oussama qui est chargé de la négociation, et d'une négociation qui a abouti, non seulement parce qu'il y eut une alliance entre Damas et le royaume de Jérusalem, mais aussi parce que Zengi, qui était un habile stratège, s'est bien rendu compte que les forces allaient se tourner contre lui, et il a préféré lever le siège.
Thank you.
circonstances exigèrent mon départ pour Damas. Les émissaires de l'Atabaq s'y succédaient pour me desservir auprès du maître de la ville. J'y restai 8 ans et fus le témoin de nombreuses batailles. Le seigneur des lieux, Dieu le prenne en pitié, m'octroya libéralement une solde et un fief, et me distingua en me faisant l'honneur de son intimité. Par ailleurs, j'étais l'objet de la bienveillance de l'émir Mohiddin, Dieu le prenne en pitié, qui s'était attaché à ma compagnie et patronné mes intérêts. Puis vinrent des événements qui m'obligèrent à me rendre en Égypte. Je perdis dans l'aventure les objets domestiques et les armes que je ne pus emporter avec moi, et quant aux biens que j'abandonnais, c'était une autre catastrophe. Tout cela se passait alors même que l'émir Mohiddin, Dieu le prenne en pitié, me voulait du bien, me traitait avec faveur et se désolait que je le quittasse, tout en avouant qu'il ne pouvait rien pour moi. Il m'envoya son secrétaire, le chambellan Mahmoud al-Mustarshidi, pour me dire en son nom, « Par Dieu, si j'avais avec moi la moitié des gens qui sont ici, j'abattrais avec eux l'autre moitié. Si j'en avais le tiers, j'abattrais les deux autres et ne me séparerais pas de toi. Mais ils sont tous ligués contre moi et je ne peux rien faire. Où que tu sois pourtant, tu sauras que l'amitié qui nous unit ne faiblira pas. »
Alors, la situation politique et militaire de Damas dans cet ensemble du Proche-Orient au début du XIIe siècle?
Elle est la lointaine conséquence de l'arrivée en force des Turcs au milieu de notre XIe siècle. Les Turcs sont arrivés en masse de l'Asie centrale, ils ont mis la main sur le califat abbasside de Bagdad et ils se sont ensuite répandus sur le Proche-Orient. Non pas tellement en masse d'ailleurs, sauf du côté de l'Asie mineure, dans ce pays qui plus tard deviendra le pays qui porte leur nom, la Turquie. Répandu plutôt sur le reste du Proche-Orient sous la forme d'une élite militaire qui a fondé des principautés. Et la Syrie de l'époque d'Oussama est une Syrie gouvernée presque entièrement par des aristocraties locales turques. Damas, l'une de ces villes, est ainsi aux mains d'une famille turque qui s'appelle la famille des Bourides, qui a mis la main sur la ville et qui est en conflit larvé avec les autres dynasties locales, celles des autres villes que nous connaissons toujours aujourd'hui, de Syrie, Hama et Homs, pour parler des plus rapprochés. Alors, cette principauté turque, elle est là sur un échiquier qui est d'autant plus compliqué que les Francs sont aux portes de Damas, pratiquement. Damas sera même assiégé. Et pour essayer de maintenir leur pression sur les principautés du nord de la Syrie, Hama et Homs notamment, ces princes bourides jouent le jeu de l'alliance avec le royaume chrétien de Jérusalem. Et c'est comme cela qu'Oussama se trouvera envoyé en ambassade auprès des Templiers de Jérusalem. C'est sur cet échiquier diplomatique extraordinairement complexe et fluide qu'il faut imaginer Oussama arrivant à Damas.
Alors des Turcs qui sont une minorité mais qui gouvernent le pays, oui, qui sont arabisés, et l'unité finalement entre toutes ces ethnies, c'est évidemment l'unité religieuse.
C'est l'unité l'islam. Religieuse, car l'arrivée en masse des Turcs au XIe siècle a été un tournant essentiel dans l'histoire de l'islam en tant que religion. Ces Turcs ont opté pour le sunnisme, pour une des deux grandes options de l'islam. Et ils ont eu une politique sunnite extraordinairement active. Ils ont fondé des écoles, ils ont fondé des universités, ils ont encouragé les sciences dans un esprit résolument sunnite. Et c'est autour du credo sunnite, finalement, que l'unification se fera à cette époque entre l'Égypte et la Syrie. Car lorsque Saladin, quelques années après, arrivera au Caire, il supprimera d'abord le califat fatimide d'Égypte, c'est-à-dire qu'il rendra l'Égypte officiellement au sunnisme. Et c'est autour de ce credo sunnite que s'est faite l'unification de par Zengi, puis par Nour ed-Din, puis par Saladin.
Alors chassé, pour ainsi dire, de sa propre principauté, de Shaizar, Oussama va trouver refuge à Damas. Il y est apparemment très bien accueilli et on lui donne même un certain nombre de responsabilités officielles.
Il est très bien accueilli, il est visiblement dans l'entourage immédiat du pouvoir, il est l'un des très grands amis de celui que nous appellerions le premier ministre, enfin le vizir, Anour, et il exerce visiblement des responsabilités à un échelon très élevé. Mais il a le tort, je crois, de jouer un peu trop de la politique politicienne au niveau des clans.
Qui est particulièrement compliqué.
Qui est particulièrement compliqué, puisque nous sommes dans un pays arabe gouverné par des Turcs, mais où tout de même l'élément arabe est prédominant dans les masses de la population, mais aussi, je suppose, dans les avenues du pouvoir, parce que les Turcs gouvernent aussi avec l'aristocratie arabe locale. En plus, Oussama arrive de loin, il arrive du nord. On sait qu'il a été protégé par Zengi. Les complots qui sont dirigés contre lui et où il croit voir la main de Zengi n'aident pas évidemment à clarifier les choses. Bref, il est assez vite en porte-à-faux et il devra là aussi bientôt quitter Damas.
Un comportement plus inhumain que ceux qui s'y sont acclimatés en fréquentant les musulmans. Je vais donner un exemple de l'inhumanité de ces gens-là. Dieu les avilisse. Lors d'une visite à Jérusalem, j'entrais dans la mosquée Jamal Aqsa, sur le côté de laquelle il y avait un petit oratoire que les Francs avaient converti en église. Quand j'allais à la mosquée, où se trouvaient mes amis les Templiers, ils laissaient libre pour moi ce petit oratoire et j'y faisais mes prières. J'étais entré là un jour, j'avais prononcé la formule « Dieu seul est grand » et me tenais debout, tout à ma prière, lorsqu'un franc se rua sur moi, me saisit et tourna ma tête vers l'Orient en disant « C'est de cette façon-là que tu dois prier ». Un groupe de Templiers intervint aussitôt. Ils se saisirent de lui et l'expulsèrent loin de moi. Je me remis à ma prière, mais le même homme, échappant à leur attention, revint se jeter sur moi, tourner mon visage vers l'Orient et me dire « C'est de cette façon-là que tu dois prier. » Les Templiers entraient de nouveau pour le prendre, le chassèrent en me demandant de l'excuser. « C'est, m'expliquèrent-ils, un étranger qui est arrivé ces jours-ci des pays francs, et il n'a jamais vu prier personne autrement que vers l'Orient. » « J'ai assez prié comme cela, » répondis-je. Je sortis encore sous le coup de l'étonnement que m'avait donné cet homme, avec son visage décomposé, son tremblement, son saisissement à la vue de quelqu'un qui priait vers la Mecque.
Dans les années 40-43 auparavant, il est envoyé par Anour à Jérusalem. Alors oui. Comment cet arabe, qui est un émissaire du gouvernement de Damas, peut-il se trouver sur les lieux saints à Jérusalem, qui sont donc occupés par les croisés depuis la fin du XIe siècle?
Il rencontre à Jérusalem un certain nombre de personnalités, notamment les Templiers. Sont visiblement les Templiers qui l'ont le plus marqué. Alors ces Templiers, dit-il, sont des gens très honorables et qui notamment un jour lui permettront de prier dans le coin d'une mosquée, de la mosquée de Jérusalem,
Al-Aqsa.
Cela posé, il reste que ces Templiers ont un défaut majeur, c'est qu'ils croient à la Vierge Marie. Ça, véritablement, là, c'est la pierre de touche où Saman ne peut pas admettre. Dit ces gens qui sont des gens d'honneur, qui croient en Dieu, m'ont fait voir l'enfant Jésus, comme ils disent, dans les bras de la Vierge Marie. Comment peut-on croire à de pareilles balivernes? Là, véritablement, ça ne passe pas. Et pour le reste, on a vraiment plus que le sentiment, la conviction qu'il y a eu là, non seulement un échange diplomatique, mais un échange d'homme à homme, disons.
Zengi réussit à prendre cette ville de Syrie du Nord qui est Édesse en 1144.
Françoise Michaud.
Et cet événement qui marquait donc la fin d'un des quatre États latins, eut un certain retentissement en Occident, puisque ce fut à cette occasion, à la suite de cet événement, que le pape Eugène III proclama la seconde croisade en 1146.
Celle à laquelle va participer Louis VII, le roi de France.
Et qui fut prêchée par Saint Bernard, puisque à Vézelay, Bernard de Clairvaux, devenu Saint Bernard, appela au départ à cette croisade. Cette seconde croisade échoua.
Lors de la chute d'Édesse et de la deuxième croisade qui va suivre,
Mohamed Rekeya,
notre Oussama se trouve en Égypte de 1144 à 1154. Par conséquent,
il a été banni de Damas.
Il a été banni de Damas et il se trouve en Égypte, c'est-à-dire loin du champ de bataille et loin de cette entreprise de regroupement des forces qui est partie de deux très grands centres depuis l'Antiquité d'ailleurs, Mossoul et Alep, avec évidemment la tentation de s'emparer de Damas. Et une fois qu'on a Mossoul, Alep et Damas, le vœu le plus cher, c'est de déboucher directement sur la Méditerranée. Donc, les États francs sont menacés. C'est pour cela que les États francs, à ce moment-là, vont se tourner davantage vers l'Égypte, où se trouve banni notre Oussama de 1144 à 1154. Donc c'est un régime moribond qui ne doit, je le rappelle, sa survie qu'à ses principautés écrans. Et d'ailleurs, la principale action de Noureddin sera la conquête de l'Égypte, c'est-à-dire que la route de Jérusalem passe par Damas et par le Caire.
Mon arrivée au Caire eut lieu un jeudi, le second jour du mois de Jumad Thani de l'an 539. L'Hafidh ad-Din Allah me rendit le repos dès l'instant de mon arrivée. Il me fit revêtir en sa présence même d'un manteau d'honneur et remettre une garde-robe ainsi que 100 dinars, me donna accès à ses bains et m'installa dans une splendide résidence qui avait compté parmi celles d'Al-Afdal, fils de l'émir des armées. On me la donna telle qu'elle, avec ses tapis, ses nattes, ses ustensiles de cuivre et une grande estrade d'apparat, le tout sans qu'on me redemandât quoi que ce fût. Je séjournai là pendant longtemps, honoré, révéré, sans arrêt comblé de faveurs et tirant revenu d'un fief qui ne me donnait que des satisfactions.
André Michel, en 1154, retournement complet à Damas, puisque c'est le fils de Zengi qui va prendre le pouvoir.
L'arrivée de Noureddin en Syrie change évidemment politiquement les choses de façon considérable, puisque c'est là la première fois que la Syrie devient depuis de longues années unifiée et unifiée dans un projet politique qui est la lutte contre les Francs.
Alors quels sont ces rapports à ce moment-là avec le fils de Zengi, avec Noureddin?
Avec Noureddin, en fait, il n'aura pas tellement de rapports. Il connaîtra Noureddin surtout à partir d'une ambassade qu'il effectuera depuis le Caire pour aller voir Noureddin. lorsqu'il viendra de la part des califes fatimides du Caire voir Noureddin, il lui proposera de la part de ces califes du Caire un projet d'alliance contre les Francs. Et Noureddin dira non, en tout cas fuira, ne répondra pas de façon très franche, pour une raison que je crois évidente, à savoir que c'est Noureddin lui-même qui veut être le patron de cette anti-croisade et qui n'a pas avantage à se lier avec les califes d'Égypte s'il peut prendre à son bénéfice l'anti-croisade en question. Mais avec Noureddin, finalement, Oussama aura peu de relations, puisque ensuite, lorsqu'il reviendra à Damas, il comprendra très vite que là aussi, les choses ne sont pas très favorables pour lui. En réalité, avec toute cette série de fuites de Cheysar à Alep, d'Alep à Damas, de Damas au Caire, du Caire à Damas, puis de Damas de nouveau à Alep et ensuite dans d'autres principautés en Haute-Mésopotamie, on a le sentiment que politiquement, notre Oussama était un intrigant de première catégorie et qu'il a passé son temps, et alors au Caire c'est très visible parce que là il le raconte, il a passé son temps à magouiller, comme nous dirions aujourd'hui, à essayer de se pousser au premier rang de la scène politique par une série d'alliances, mais d'alliances de cour cette fois. Je crois que c'était un personnage politiquement impossible.
André Michel, au moment où Noureddin prend le pouvoir à Damas en 1154, quel est à ce moment-là le rapport de force entre les Arabes et les Turcs d'un côté, entre l'islam et les Francs de Jérusalem?
Je dirais que c'est exactement, au fond, le point d'équilibre des croisades. Puisque nous ne sommes pas encore à l'époque de Saladin, mais nous avons du côté musulman une force de plus en plus considérable qui s'organise. 1154, si j'ai bonne mémoire, le comté d'Édesse vient de tomber. Donc il n'y a plus que trois principautés en lice, Antioche, Tripoli et surtout le royaume de Jérusalem. Mais enfin, la croisade est déjà sur son reflux. Ça n'est plus la grande période qui a suivi l'instauration du royaume de Jérusalem et des trois autres principautés. On peut dire que nous sommes dans, je dirais, une situation d'équilibre, mais d'un équilibre qui va basculer assez vite en faveur de l'islam.
Si au début les croisés n'avaient pas une bonne connaissance de la situation, très vite,
Mohamed
les
Rikaya.
Croisés ont réalisé qu'avec leur petit nombre, les distances énormes pour eux à couvrir, la disproportion entre la population locale et les croisés, puisqu'il y avait au maximum, d'après des estimations, 100 000 croisés, dans des villes, principalement, et tenant évidemment des axes stratégiques.
Est-ce qu'on a une idée du nombre de la population locale?
Plusieurs centaines de milliers, c'est tout ce que l'on peut dire. Il y a trois choses que l'on peut dire. Les croisés sont installés fondamentalement dans les villes, évidemment dans des axes stratégiques aussi. Donc c'est un regroupement. Toute la campagne leur échappe dans le royaume de Jérusalem. On estime qu'il y a 1200 agglomérations agricoles sur lesquelles il y aurait au maximum 60 agglomérations franques. De même, il y a tout le domaine des tribus qui leur échappe, lesquelles tribus sont soumises formellement ou de temps en temps réellement. Par conséquent, il y a un contrôle qui est un contrôle politique et militaire qui fait qu'ils sont obligés d'augmenter leurs forces avec des alliances locales. Et ce qui est intéressant, c'est que la politique de ces cités, et notamment de Damas, fait que Damas est un très grand centre caravanier. Et comme on le dit même jusqu'à nos jours, les Damascènes ont un tempérament spécial. Ce sont des gens qui passent leur temps à accueillir et à dire au revoir aux différents conquérants. Par conséquent, Damas tient à préserver sa position de centre, et c'est pour cela que nous la verrons liguée contre le principal représentant, entre guillemets, de la guerre sainte, que je préfère utiliser l'expression arabe « l'effort dans la voie de Dieu », le « jihad », c'est-à-dire Noureddin, fils de Zenki. Tout ceci montre que l'idée qui a commencé à être envisagée par certains musulmans pieux vers 1100 pour mobiliser les musulmans contre les chrétiens, elle mettra à peu près trois quarts de siècle pour pouvoir se réaliser et d'une façon miraculeuse. C'est-à-dire que les musulmans se méfiaient de l'utilisation du jihad qui est une utilisation politique. En effet, le jihad exigeant le rassemblement autour d'un chef, il fallait reconnaître ce chef, donc abdiquer son autonomie et son indépendance. Et c'est une des raisons supplémentaires qui explique le succès et le maintien des croisés si longtemps en Terre Sainte.
Alors, quelles vont être les opérations auxquelles Oussama va participer contre les Francs?
En réalité, les opérations auxquelles il participe contre les Francs, ce sont surtout les opérations à partir de l'Égypte. Lorsqu'il est au Caire, à la cour des califes fatimides du Caire, il participe à plusieurs opérations qui sont d'ailleurs un peu toujours des coups de main, qui ne sont pas des batailles rangées, notamment les opérations contre Ascalon, contre les portes de la côte, justement. Mais là encore, on n'a pas le sentiment d'une politique délibérée de la part des califes du Caire, d'une politique délibérée d'attaque frontale massive pour rejeter l'ennemi à la mer. Le seul moment où une politique réellement et globalement anti-franque se dégagera, c'est au moment où, en effet, Oussama sera dépêché du Caire vers la Damas de Noureddin pour proposer à Noureddin un front commun contre l'ennemi croisé. Et Noureddin refusera, pour encore une fois garder pour lui-même le bénéfice de la contre-croisade. Mais ces engagements, Oussama nous en parle, on n'a pas, encore une fois, le sentiment de quelque chose de très violent, en tout cas de très massif. Et ce sont des engagements qui, la plupart du temps, même, sont le fruit du hasard. Nous étions, dit-il, installés lorsque les Francs vinrent nous dire un petit bonjour, façon de dire vinrent nous attaquer.
Beaucoup d'opérations d'escarmouches, de razzia, comment se font-elles militairement? Est-ce que ce n'est pas la ruse essentiellement qui est la règle principale?
À partir du moment où le combat s'est engagé, il peut s'être engagé parce qu'on a aperçu une troupe de Francs à quelque distance ou qu'on a su qu'une troupe de Francs était à quelque distance, et réciproquement bien sûr. Il peut s'engager aussi sous l'effet de la surprise. À partir du moment où le combat est engagé, c'est une série de combats dans le combat qui se déroule. Ça, nous y sommes habitués par notre imagerie du Moyen-Âge occidental, mais là, cela correspond à l'image que l'on peut en avoir de l'autre côté. Alors, il y a dans cette mêlée où chacun en découd avec l'adversaire qu'il s'est choisi ou que le sort lui donne, il y a tout de même des phénomènes assez intéressants, et notamment au niveau du costume. Il y a des gens qui arborent splendidement une tenue extraordinairement voyante pour se désigner à l'attention de l'adversaire.
Des tuniques rouges, vertes, jaunes, passées
oui,
par-dessus l'armure.
Par-dessus l'armure, ou des bonnets absolument extravagants. Enfin,
des bonnets pointus pour les musulmans.
Des bonnets pointus pour les musulmans. Mais il y a aussi des Francs qui portent des coiffures extravagantes ou cette chasuble de couleur très violente passée par-dessus l'armure. Et alors, c'est là surtout que le Oussama des guerres s'en donne à cœur joie, parce que c'est dans ces combats qu'il voit justement le destin en marche, frappant ou épargnant.
Mon père, Dieu le prenne en pitié, était un guerrier impénitent dont le corps portait d'effroyables blessures et qui, avec cela, mourut dans son lit. Un jour de bataille, il était là, tout équipé et coiffé d'un homme musulman à nasal. C'était le temps où la lutte se faisait surtout avec les Arabes. Quelqu'un jeta sur mon père un javelot qui tomba droit sur le nasal du casque. Celui-ci fut faussé et le nez se mit à saigner, mais mon père n'eut pas d'autre mal. Si Dieu, loué soit-il, avait décrété que l'arme déviât sur le nasal, il aurait signé sa mort. Mon père, toujours lui, fut touché une fois d'une flèche à la jambe. Il portait à sa bottine un poignard. La flèche tomba sur le poignard et se brisa sur place sans causer de lésion. Si sûre est la protection du Très-Haut.
L'armement est assez comparable chez les Francs et chez les Arabes de l'autre côté.
Oui, assez comparable, bien que par exemple nous n'ayons aucun renseignement sur les boucliers, sur les écus, du côté franc surtout. Du côté musulman, nous avons des écus de cuir ou des écus de métal, lances, arcs et sabres, sabres courbes bien sûr.
Il n'y a pas d'arbalète du côté arabe ?
Si, pour les sièges surtout. Mais pas tellement dans le combat. Le combat se fait, du moins d'après ce que Oussama nous en raconte, le combat rapproché se fait à l'arme légère.
Est-ce que les musulmans utilisent également des machines de guerre, des pierrières ou des catapultes ?
Oui, bien sûr,
dans
les sièges, avec tout ce qui tourne autour, le travail de sape pour faire s'effondrer les murailles. C'est exactement la même façon de faire la guerre.
Il semble tout de même qu'il n'y ait pas exactement les mêmes règles. Lorsque on voit se dérouler des batailles entre les chrétiens, je pense par exemple à Bouvines ou à d'autres, il semble qu'il y ait une sorte d'art de la guerre qui peut s'apparenter à l'art du tournoi, par exemple.
Oui.
Alors que dans les affrontements entre les Francs et les musulmans, il semble qu'à chaque fois, cet affrontement soit avant tout destiné à tuer.
Je dirais que ce jeu d'échecs, nous pourrions le trouver dans les parties de l'œuvre qui réfèrent aux premières décennies. Je veux dire avant, en gros, l'arrivée de Noureddin, surtout, et bien sûr de Saladin. Là, on a le sentiment d'une guerre qui a ses règles du jeu au sens profond du terme. Vous vous souvenez par exemple de cet épisode où on voit passer à Cheysar un guerrier, un très jeune guerrier, merveilleusement fait, très, très bel homme, mais couturé de cicatrices, et que les gens de Cheysar reconnaissent en effet pour un de leurs adversaires qu'ils avaient laissé pour mort sur le champ de bataille. Cet homme arrive avec un sauf-conduit de la principauté rivale, de la principauté d'Antioche, et sa personne est sacrée, il traverse le territoire de Cheysar. Et au niveau de la bataille, nous avons quelques traits. On épargne tel guerrier parce qu'on le reconnaît ou parce qu'on est débiteur de tel ou tel homme.
Et il semble qu'à chaque fois, ce soit des initiatives individuelles et un peu de caractère exceptionnel. Autrement dit, il ne semble pas qu'on respecte de part et d'autre, aussi bien du côté des Francs que du côté des musulmans, qu'on ne respecte pas ce qu'on pourrait appeler des règles de chevalerie.
Absolument. Je crois que très vite, en effet, s'est posé le problème de la raison de ces Francs. Si nous revenons à Bouvines, il y a en effet deux souverains qui sont légitimement titulaires d'un territoire. Bien. Ce qui se pose avec les Francs, c'est le problème de leur légitimité. Ce qui explique, au fur et à mesure que nous avancerons dans la vie d'Oussama, ces traits de cruauté, de pas de quartier, de part et d'autre, en effet. Les Francs, finalement, ne sont ni des orientaux, ni des musulmans. Ils n'avaient aucune chance de rester. Parce que les Turcs, par exemple, sont devenus... Ils n'étaient pas orientaux à l'origine. Enfin, ils n'appartenaient pas au pays du Proche-Orient. Mais ils sont devenus musulmans. Ils sont restés. Les chrétiens d'Orient, finalement, ont très bien passé le choc des croisades. Pourquoi ? Ils n'étaient pas musulmans, mais eux étaient profondément orientaux. Les croisés n'étaient ni l'un ni l'autre. C'était véritablement une pièce étrangère dans le jeu, non seulement dans le jeu diplomatique et guerrier du Proche-Orient, mais dans le terroir du Proche-Orient. Je crois en effet qu'ils n'avaient aucun atout. Ces Francs se sont-ils assimilés, au moins pour quelques traits ? Pas du tout. Quand on lit Oussama, on est frappé de voir que ces gens vivent au Proche-Orient exactement comme ils vivaient en Picardie ou en Aquitaine. Si Oussama signale l'un de ses amis d'Antioche qui, par pudeur pour l'environnement, ne mange pas de porc, par exemple, il le signale pourquoi ? Parce que c'est une exception. Si tel autre prend des cuisinières égyptiennes, si Oussama le signale, c'est parce que c'est une exception. Mais on n'a pas du tout le sentiment d'un minimum de démarche vers l'autre.
Certains d'entre eux ont pris des femmes arabes.
Certains d'entre eux ont pris des femmes arabes. Certains. Et puis il y a cette fameuse phrase d'Oussama qui en dit long. Les francs de la nouvelle génération sont pires que les anciens. Car les anciens, au moins, ils ne disent pas c'était assimilé. Mais enfin, on avait appris à les connaître. Tandis que les nouveaux, véritablement, il n'y a rien à tirer d'eux. On a vraiment la conviction qu'au fur et à mesure des vagues, je ne dis pas d'immigration parce qu'il ne s'agit pas de ça, mais de vagues de nouveaux arrivés, la situation empire et la situation conflictuelle empire.
Ce qui explique alors la sauvagerie des combats dont oui. Oussama décrit oui. toute la cruauté. Ah oui. Et c'est pour cela qu'on a presque envie d'assimiler la guerre telle qu'elle se déroule entre les Francs et les musulmans à la chasse contre les bêtes sauvages.
Oui, on revient du champ de bataille avec les dépouilles, les têtes encore sanglantes qu'on accroche au harnais. C'est une partie de chasse et sans merci. Oui.
La Tabak Zanji avait coutume de dire « J'ai trois hommes à moi. Le premier craint le Très-Haut, mais ne me craint pas. » Il désignait par là Zineddine Ali Qudjar, Dieu le prenne en pitié. « Le second me craint, mais ne craint pas le Très-Haut. » Il s'agissait de Nasreddin Sonkour, Dieu le prenne en pitié. « Le dernier ne craint ni Dieu ni moi. » C'était Salah ad-Din Mohamed ibn al-Ayoub al-Ghazaini, Dieu le prenne en pitié. J'ai constaté chez ce dernier, Dieu ferme les yeux sur ses fautes, des traits qui justifient les paroles de la tabac. Nous avions par exemple fait un jour mouvement vers Homs, alors qu'une pluie énorme s'était abattue sur le sol. La terre, devenue boueuse, était si lourde que les chevaux ne pouvaient pas bouger, tandis que les fantassins, eux, luttaient au corps à corps. Salah ad-Din était posté avec moi et nous regardions devant nous ces fantassins. L'un d'eux courut rejoindre ceux de Homs auxquels il se mêla. Salah ad-Din, qui l'avait vu, dit à l'un de ses compagnons « Amenez ici l'homme qui était à côté du fuyard. » Quand ce fut fait, il lui demanda « Quel était celui-là qui se trouvait à côté de toi et s'est enfui pour aller à Homs ?»« Par Dieu, Seigneur, répondit le fantassin, je ne le connais pas. » « Tranchez-le par le milieu, ordonna Salah ad-Din. »« Seigneur, dis-je alors, emprisonne-le et fais éclaircir le cas de l'autre. »« Si cet homme-ci le connaît ou lui est lié par quelque parenté, alors tu lui couperas la tête. »« Sinon, tu aviseras à son propos. » Salah ad-Din parut se ranger à cet avis. Mais un de ses serviteurs qui se tenait à côté de lui dit « Quand quelqu'un déserte, on prend celui qui était à ses côtés, on lui coupe le cou, ou bien on le tranche par le milieu. » Ces paroles réveillèrent la hargne de Salah ad-Din. Il ordonna de trancher l'homme par le milieu. On l'entrava, comme le voulait l'usage, et on le coupa en deux. Salah ad-Din n'avait rien à se reprocher, sinon que de s'être entêté et de n'avoir pas assez craint le Très-Haut.
Saladin va se rendre maître de l'Égypte en 1169 et deux ans plus tard, il va proclamer la déchéance de la dynastie des Fatimides. Et il va exercer ce pouvoir pendant un quart de siècle, pendant 24 ans, jusqu'à sa mort en 1193, c'est-à-dire 5 ans seulement après la mort d'Oussama. Il y a deux projets chez Saladin et il y a un projet, disons, politique qui est celui de l'unification non seulement de l'Égypte, de la Syrie, mais aussi de l'Irak. Et puis, il y a un projet que l'on pourrait appeler à la fois militaire et religieux, mais principalement religieux, c'est celui de l'éviction des Francs de la Palestine. Et là, il semble que dans l'esprit de Salah ad-Din, il s'agisse d'un projet essentiellement religieux, je veux dire d'une guerre sainte. Le jihad. Est-ce que dans l'esprit d'Oussama, cette idée de guerre sainte contre les Francs apparaît à un moment du texte?
Oui et non. Non dans la mesure où ce projet n'est pas inscrit dans un vocabulaire précis. Je ne sais même pas si le terme de jihad apparaît une seule fois dans ce livre. Pas plus d'ailleurs que le terme de croisée. Oussama, parlant de l'ennemi, dit toujours les Francs. Ça, c'est le côté négatif, si j'ose dire. En réalité, dans l'épaisseur du livre, c'est bien d'une guerre sainte, du jihad, qu'il s'agit. Et pour revenir à Saladin, il est vrai que, mais comme toujours dans l'histoire de l'islam classique, le politique et le religieux sont étroitement imbriqués. Il n'y a pas de doute que Saladin est d'abord un grand personnage qui a une ambition personnelle. Cette ambition personnelle commence, comme vous l'avez rappelé, par la suppression du califat fatimide d'Égypte, mais déjà, la suppression du califat fatimide d'Égypte est un phénomène religieux.
Mais car... pourtant, au départ, Saladin est un héritier, je dirais, de Zanghi, un fidèle de Zanghi et de Nour ed-Din. Il s'inscrit dans une tradition.
C'est cela. Alors, c'est un Kurde, mais c'est un Kurde qui recueille l'héritage de la politique mise en place par les principautés turques après l'an 1000 au Proche-Orient. Cette politique, car c'est une politique, est fondée sur l'expansion du sunnisme. Et toutes les principautés turques, à commencer par les grands Seldjoukides qui ont mis la main sur le califat de Bagdad, sont des fondateurs impénitents de madrassa, médersa, comme nous disons dans un vocabulaire un peu francisé. Ces madrassas sont des écoles qui sont des écoles de l'islam sunnite et qui sont assises sur une répartition très stricte entre les quatre écoles qui fondent l'islam sunnite, celui que nous appelons bien à tort orthodoxe. Alors Saladin, lorsqu'il supprime le califat fatimide d'Égypte, fait à la fois un acte politique dans la mesure où lui-même s'investit du pouvoir sur l'Égypte et bientôt après sur la Syrie, mais en même temps c'est un acte religieux, car les fatimides étaient des chiites.
Est-ce qu'on peut voir aussi en Usama un défenseur, je dirais presque inconditionnel du sunnisme, ou est-ce qu'il n'a pas été séduit par certains aspects du chiisme également ?
On dit, certains érudits ont laissé entendre qu'il avait été séduit par certains aspects du chiisme. J'en ai relevé une ou deux traces dans son œuvre, je dirais très franchement qu'elles ne me paraissent pas très convaincantes. En réalité, c'est un bon musulman, un musulman que je dirais moyen. Et c'est le lieu de rappeler que, si l'on met à part les formes extrêmes du chiisme, il y a entre le sunnisme et le chiisme infiniment moins de clivage qu'on ne le dit. En fait, le chiisme dans ses grandes masses et le sunnisme dans ses grandes masses appartiennent à ce qu'il faut bien appeler l'islam, un islam moyen, au bon sens du terme. Alors, ce projet de Saladin, comme vous le disiez, est un projet dans lequel le politique et le religieux interfèrent profondément. Il est vrai que Saladin, croyant convaincu et croyant sunnite, voit dans les Francs un ennemi d'abord sur le plan de la religion, et il reste que ce parti pris, au meilleur sens du terme, de sunnisme est le credo politique d'une politique précisément, à savoir d'une politique d'unification de la Syrie et de l'Égypte, et que là, comme dans tant d'autres exemples de l'histoire, une politique d'unification se fait contre quelqu'un. Et en l'occurrence, l'ennemi, bien évidemment, pour des raisons politiques et religieuses, c'est le franc, c'est le croisé.
Une lettre m'appela auprès de notre seigneur El-Malik Nasr Salah ad-Din, le sultan de l'islam et des musulmans, le rassembleur de la foi, le fléau des adorateurs de la croix qui élève l'étendard de la justice et du bien, qui rend vie à la dynastie du commandeur des croyants, Abu al-Muzaffar Yusuf ibn Ayyub. Plaise à Dieu d'embellir l'islam et ses fidèles en donnant longue vie à Salah ad-Din, en les aidant par le tranchant de son épée et de ses décisions, en les abritant dans l'ampleur de son ombre. Et comme il a pour eux lavé de toute impureté les sources de ses mérites, puisse-t-il de même soumettre la terre à son très haut pouvoir de commander ou de défendre, et les têtes de ses ennemis à la sentence de son sabre.
Thank you.
Les inconnus de l'histoire enquêtent sur un prince syrien du XIIe siècle dans la guerre du Proche-Orient. Ousama Ibn Munkif, par Jean Montalbetti, médiateur André Miquel, professeur au Collège de France, consultant Mohamed Rekaya, maître assistant à Paris 3, spécialiste de l'islam classique, Françoise Michaud, maître assistante à Paris 1, spécialiste de l'histoire du Moyen-Âge. Dans le rôle d'Ousama, Boudjema Bouada, prise de son Patrice Klein et Eric Damaggio, mixage Claude Jubier, réalisation Christine Bernard-Sugy.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 décembre 1983. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.